Le Testament du Roc, livre de Denis Marquet, aux éditions Flammarion. Extrait. A Titus Flavius Clément. Clétus à Titus, salut. Toi que j'ai toujours tenu, bien que tu ne sois pas de mon sang, comme le plus cher de mes fils, mon séjour en ce monde touche à son terme. J'aurais aimé te serrer contre moi une dernière fois, mais je sais que tes fonctions te retiennent loin de Rome jusqu'à l'hiver, un hiver que je ne verrai pas. J'ai dicté à mon fidèle Claudius les lettres qui suivent et, sitôt mon cachet apposé sur la présente, je l'enverrai te les porter. Je veux dès maintenant t'informer que j'ai proposé ton nom pour me succéder, et le collège des anciens a approuvé mon choix. Néanmoins, même si l'on t'apprend mon décès, je te demande de ne pas revenir précipitamment. Tes fonctions au service de Rome sont importantes, et nos ennemis nombreux. Il faut n'éveiller aucun soupçon. Tu le sais, j'ai connu Chimone, celui que notre maître nomma le roc, et qu'à présent, tout le monde appelle Pierre. Tout ce qu'il m'a révélé ainsi que les circonstances dans lesquelles il l'a fait, je te le livre dans ses lettres. Tu y trouveras bien des secrets qui n'ont pas été divulgués, tant sur les événements de la vie du maître que sur ses enseignements. Je te laisse libre de ce que tu jugeras bon de dévoiler. Aux âmes simples, ne l'oublie jamais, il faut des vérités simples. Aux âmes profondes, des enseignements profonds. Quand tu étais spirituellement un nouveau-né, je t'ai donné du lait, non une nourriture qui ne t'eût pas convenu. Et c'est seulement lorsque tu devins capable de les assimiler que je te donnais des aliments solides. Les paroles qui suivent sont comme une boisson fermentée. En toi, elles peuvent produire l'ivresse du vin nouveau. Mais pour une autre, elles seront arseniques. J'ai confiance. Tu sauras offrir à chacun la nourriture qu'il fera grandir. Sur ma personne et sur la vie que je menais avant ma rencontre avec le roc, tu apprendras également certaines vérités. Mes égarements, tu peux les exposer, mais seulement à ceux qui ne risqueront pas de faire trébucher. Mon ami, mon fils, tu as su recevoir mon être et mes paroles avec une âme vierge, un cœur pur et un désir vibrant. Sache que tu m'auras été cher plus qu'aucun autre. Je ne crains pas de mourir, mais l'idée que je ne poserai plus les yeux sur ton visage assombrit mes derniers jours. Je te demande de ne jamais l'oublier. Même séparés par la distance, même lorsque j'aurai quitté ce monde, mon cher Titus, nous sommes un. Néron régnait, j'avais 30 ans. Sans être né, comme toi, sur les cimes de la fortune et du prestige, j'appartiens, tu n'ignores pas, à une famille aisée de l'ordre équestre qui sut m'offrir une jeunesse dénuée de manque comme de l'idée même de manquer. Mon père, parvenu aux plus hautes charges de sa classe, s'était enrichi dans l'administration du ravitaillement. Il espérait beaucoup en moi. Durant longtemps, je ne le déçus pas, poursuivant l'ascension qu'il avait commencée. Formé très jeune à la rhétorique et à la philosophie, je passai une année à Athènes auprès des meilleurs maîtres avant de revenir à Rome, exercer la profession de plaideur. Au tribunal, comme dans les cercles mondains, le succès me couronna. Une verve facile, nourrie d'un goût précoce pour tous les savoirs, un don pour le mot qui plaît en ayant l'air de piquer, comme pour celui qui rabaisse en paraissant flatté, me poussèrent jusque dans les cercles qui entouraient l'empereur. C'était un temps où l'esprit guerrier ne garantissait pas de plus haute conquête que lorsqu'il avait le verbe pour épée. Un jour, une de mes saillies fit sourire Néron, signal pour que la volée des courtisans rit comme un seul. Et j'appartins à ceux sur lesquels un dieu posait ses yeux. Rome était alors, surtout l'orbe de la terre, le carrefour des croyances, le vidoir des doctrines et la bourbe des superstitions. Il n'était pas un devin chaldéen, un mystagogue phrygien ou quelque prêtre isiaque qui ne put en 10 jours s'y forger un auditoire de consuls ou d'affranchis, de chevaliers ou de plébiens, tous disposés à rétribuer grassement un oracle, un mystère ou une abscondité. Des escouades de sophistes à la peau sombre, ayant appris un peu de philosophie sur les rives de l'Asie mineure, pontifiant en un grec Saint Jean celui d'Aristote, des professeurs de sagesse socratique, stoïque, cynique, cyrénaïque, acataleptique, platonicienne, épicurienne, pyrrhonienne, rivalisaient avec les gymnosophistes venus du lointain Orient pour monnayer aux crédules des ascèses impossibles et les recettes contradictoires de la béatitude. Et il en était peu au pied desquels mon avidité ne m'eût un jour assis. On ne s'attache à une opinion que faute d'en connaître beaucoup. À mes 25 ans, gavé de thèses et d'antithèses, mon esprit désabusé était devenu incapable d'adhérer. Un système philosophique ne me semblait rien de plus qu'une belle histoire. J'y goûtais le plaisir que l'on prend aux fables. Quant à nos mythes auxquels, de la plèbe à l'empereur, tous affectent de croire dans les fêtes, les discours et les sacrifices, il me paraissait juste bon à distraire les enfants qui n'ont pas encore l'âge de payer leur entrée dans les bains. M'affirmait-on qu'il existe quelque part un royaume souterrain où résident les mânes des morts et que les gouffres du Styx grouillent de grenouilles noires? Je ne croyais plus en l'immortalité. Prétendait-on que le temple de Jupiter, dominant de sa gloire la roche tarpéienne, abrite une présence divine? Je réfutais les dieux. Ce détachement non fin conférait à mon verbe une sorte de souveraineté qui fascinait. Les âmes faibles accouraient à mes pieds dans l'espoir qu'un trait de mon esprit dissipe en elles la crainte du surnaturel et ne leur laisse à vénérer sur terre que le seul maître que je m'étais donné, le plaisir. Le vin et la bonne chère, les douceurs de la chair et les brillants de la conversation, telles étaient en effet les joies tangibles qui avaient survécu à l'acuité du doute que promenaient mes yeux sur le monde. Un corps à la jeunesse sculptée au gymnase doublé d'un esprit apte à capter la lumière m'avait ouvert les nuits des riches demeures des Esquilies, de la colline de Diane et de la rue des Patriciens. Durant le temps bien court où je plus à Néron, s'offrirent à moi les orgies du Palatin. C'est à me damner que je m'y donnais. Le caprice de Néron me fit questeur avant mes 29 ans. Comme j'avais l'art de me courber en le faisant rire et de le flatter en lui donnant à penser, il fallut peu de mois pour qu'il me nomme son secrétaire. Siégeant à son cabinet, je portais au Sénat la parole de celui qui aimait qu'on l'appelle un dieu vivant. J'eus quelques semaines, assis sur les sommets du monde, pour me croire heureux. Mais du soleil des illusions, je m'étais trop approché, mes ailes brûlaient déjà. J'eus le tort, un jour, d'écrire quelques bons vers et ceux qui me jalousaient la malice de trop les admirer. Néron, qui se piquait d'être poète et ne souffrait aucun rival, s'en offensa. Les gardes prétoriens me saisirent à l'aube. Je fus jeté dans les ténèbres d'un cachot. Ma chute, aux yeux du monde, fut le début d'un tout autre chemin. Le dernier reflet du jour dans mes yeux fut le regard content d'un décurion me versant d'une bourrade dans les marches sombres de ma geôle. Le claquement lourd de la porte et l'écho du loquet couvrirent ma chute. Une violente douleur me perçant les côtes, je tentai de me relever en tâtonnant. J'étouffai un cri. Ma cheville ne me portait plus. Je m'effondrai, haletant sur les arêtes d'une roche glaciale et suintante, submergée de terreur. Sous ma main, le frôlement d'un pelage rêche fut suivi d'une brûlure aiguë comme une lame. Mon sursaut déclencha un fourmillement affolé. La caverne grouillait de rats. La tête entre les mains, je me recroquevillais. Plus je tentais de calmer mon souffle, plus il s'affolait. Ma gorge vomissait dans une nausée brûlante chaque bouffée d'un air noir, épais, vicié que ma bouche aspirait comme on se noie. Je crus mourir. Peu à peu, mon corps se résigna pourtant à inhaler l'humidité poisseuse du confinement de roches où l'on m'avait jeté, et le râle paniqué de ma respiration se tut, laissant mon crâne envahi d'un cliquetis suintant, pareil au son continu de la tibia curva, dont les esclaves phrygiens jouent dans les orgies. Partout, sous la pierre, de l'eau coulait, perçante, insolente comme un éclat de rire qui ne cesserait jamais. Lorsque mes yeux purent distinguer des ombres dans l'obscurité, je m'efforçai d'évaluer les dimensions de la caverne qui me tenait lieu de cellule. D'une petite grille ouverte dans la voûte se reflétait, sur la paroi qui me faisait face, la faible et vacillante lueur d'une torche, éclairant sans doute un couloir du niveau supérieur. La longueur de mon cachot n'excédait pas 15 pieds, sur une largeur inférieure à 10. C'est alors que j'eus un sursaut. Avant que ma pensée en prenne conscience, un frisson m'avait averti d'une présence. Je n'étais pas seul. Quelqu'un se tenait là, figé dans une effrayante impassibilité. Telles deux étoiles dans la nuit perçant l'obscurité sans l'éclairer, ses yeux brillaient d'une clarté froide, immensément lointaine. Me contemplait-il? Comme s'il n'excluait rien de ce que son champ de vision lui offrait, son regard ne fixait pas, demeurant pourtant dans une parfaite immobilité, celle du vide dans lequel le vertige pousse à se jeter. « Qui es-tu ? » le questionnai-je avec brusquerie. Il mit pour me répondre un temps qui m'exaspéra. Son visage avait le tranchant d'une épée. Une barbe ébène, taillée court, creusait ses joues autour de lèvres minces qui semblaient dessinées pour sourire de la médiocrité du monde. « Je m'appelle Ostanès. » J'attendais qu'il demande mon nom. Il n'en fit rien. J'aurais voulu lui rendre son indifférence, mais l'angoisse était trop forte. « Où sommes-nous ? » repris-je. Où nous sommes ? Ricana-t-il. Dans l'antichambre de la mort. Une onde haineuse parcourut mon corps. Le frapper, lui faire mal, m'aurait fait du bien. Mais il était mon seul recours, mon seul appui possible dans l'effondrement de tout. Ce fut lui qui reprit. Nous sommes sous terre, dans la partie du carcère, que l'on appelle le Toulagnum. On y jette ceux que l'on va exécuter. Je frémis. Bien sûr, j'avais entendu parler de cet endroit. C'était là qu'on étranglait les prisonniers avant d'exposer leur corps à la vue de tous, sur l'escalier d'hégémonie. Cette perspective ne semble pas t'effrayer beaucoup, lâchai-je avec amertume. Je n'ai pas peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort. Je ne suis pas tout le monde. Renversant ma tête en arrière, je fermai les yeux. J'étais tombé sur un fou. Rassure-toi, je te perçois aussi comme un fou. Je sursautai. Avait-il lu dans mes pensées ? Non, je ne lis pas dans tes pensées, articula-t-il d'un ton amusé. C'est juste que ma vue est habituée aux ténèbres et que tu es incapable de dissimuler tes sentiments. Et pourquoi serais-je fou ? Parce que tu crains le plus désirable. De quoi parles-tu ? Cela qui délivre de toute douleur. L'éclat de ses yeux, devenu mon repère dans les ténèbres du cachot, s'éteignit soudain. J'ai besoin de silence, murmura-t-il. Je te prie de ne plus me parler. Je demeurai bouche bée. Aurais-je eu un glaive, je lui aurais tranché la gorge. Mais l'élan de rage fut aussitôt noyé par la montée d'un abattement qui, en quelques instants, me submergea. Me rencognant, je me laissai sombrer dans une lourde torpeur. Et les jours passèrent. Jour ou nuit, c'était toujours la même pénombre. Le temps n'était rythmé que par l'unique repas quotidien, bol de tambouille immonde et froide, exhalant un relent de graisse calcinée auquel, souvent, je ne touchais pas mais qui m'apprenait que, dans le monde des hommes, une journée s'était écoulée. Au commencement, j'attendais vaguement que mon compagnon de cellule m'adressât la parole. Mais il était tout absorbé dans un au-delà vertigineux qu'il semblait contempler à l'intérieur de lui-même, et je me désintéressais progressivement de lui, comme de tout. Relié par la douleur lancinante qui ne cessait de me vriller les côtes, veille et sommeil finirent par se confondre. Je rêvais de ma geôle en dormant. Des fantasmagories me visitaient les yeux ouverts. Parfois, je soutenais des conversations avec d'anciens amis pour lesquels, sans doute, j'étais mort ou n'avais même jamais existé. Car, en me soustrayant à la lumière des hommes, Néron m'avait effacé de toute mémoire, bientôt même de la mienne, puisque je savais de moins en moins distinguer ce qui était réel des visions qui me hantaient, et définir qui j'étais dans cet abîme d'impressions chaotiques avalant mes souvenirs et l'histoire de ma vie. Et, faute d'être appelé, j'allais en oublier mon nom. C'est alors que parut celui qui allait tout changer. Les verrous claquèrent soudain, m'arrachant à l'hébétude. Mon écuelle était encore entre mes mains, pleine de l'habituelle mixture à laquelle je n'avais pas touché. La porte ne s'ouvrait normalement que pour la distribution quotidienne de nourriture. Un ray de lumière me fit cligner les yeux. « Fais attention, les marches sont inégales. » Le décurion qui m'avait si brutalement jeté à terre guidait dans l'escalier le pas fragile d'une maigre silhouette qu'il fit asseoir avec une douceur qui me stupéfia. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi appeler. Tu te souviendras, Martinianus. » Le bruit sourd de la porte résonna dans un silence qui avait changé de qualité. Ostanès lui-même s'était légèrement redressé. Je devinais ses sens en éveil. L'inconnu ne bougeait pas. C'était un vieil homme dont la chevelure nacrée semblait environnée d'un nimbe de clarté. Sa présence emplissait la geôle, et j'avais l'impression, bien qu'il ne pût nous voir, qu'il nous jaugeait. Et je ne sentais pas la moindre peur en lui. Alors j'eus l'étonnement d'être soudain plongé dans une paix profonde, une paix ne dépendant en rien des circonstances ni de l'environnement, une paix qui n'était due qu'à des causes intérieures, en moi plus profondes que moi. J'ai su depuis, tu sais aussi, Titus, que demeure au plus intime de nous-mêmes un espace intact et vierge, inaccessible aux troubles et à l'effroi. La seule présence de cet homme m'en avait donné un premier effleurement, mais l'impression ne dura pas, car quelque chose en moi refusait que je m'y installe. C'est la peur de la paix qui me rendit à la peur. « Qu'as-tu fait à cette brute de gardien ? » demanda Ostanès, « pour qu'il te traite avec tant d'aménité. » Je n'ai pas vu en lui une brute ni un gardien, mais un homme. Belle réponse. Comment te nommes-tu, l'ami ? je fus piqué de cette marque d'intérêt de la part de celui qui m'avait tant méprisé. Shimon, mais mes frères m'appellent le roc. À Rome, on dit Petrus. Et toi ? Ostanès. D'où es-tu originaire ? D'Adiabène. Tu es donc un ami de mon peuple ? Quel est-il ? Je suis un juif de Galilée. Ostanès émit un bref ricanement. Un juif ? Ignores-tu que les tiens n'ont pas, chez moi, que des amis ? Je sais que nous en comptons peu dans le vaste monde. Je croyais les Adiabéniens faire exception. Il est vrai que notre roi Isatès s'est converti à votre religion il y a une trentaine d'années. Ce faisant, il a profondément divisé ma nation. Mon père, attaché à la voix de Zarathoustra, est peu disposé à adopter vos coutumes, pardonne-moi, répugnantes, s'est révolté avec d'autres grands Adiabènes. Pour cela, alors que je n'avais pas 2 ans, il dut s'exiler. J'ai grandi à Rome sans connaître ma patrie, élevé dans l'amertume et la haine de tes coreligionnaires. Et pour toute mesure, puisqu'il paraît que mon pays soutient à présent les révoltes juives contre le pouvoir romain, Néron m'a fait jeter en prison pour mes seules origines. Voilà pourquoi je salue l'ironie du destin qui te mène à moi. Moi qui, dans mon malheur, me réjouissais de partager mon sort avec un être qui ne me haït point. Rassure-toi, mon âme est inapte à la haine. La morsure de cette conversation, qui se déroulait devant moi comme si je n'existais pas, me ramenait à la conscience d'exister qui m'avait presque déserté. Du coin de l'œil, j'observais le nouvel arrivant. Dans la pénombre, je distinguais une mâchoire carrée fournie d'une épaisse barbe blanche, un nez fort et sensuel, d'étincelants yeux noirs autour desquels le temps avait dessiné des rides semblables aux rayons d'un soleil gravé par un enfant. Le visage de cet homme était beau, de cette beauté qui ne doit plus rien aux accidents du corps, mais tout à la lumière de l'âme. Il se tourna vers moi. « Et toi, mon frère, qui es-tu ?» Sa question me paralysa. Il me semblait pressentir que, par elle, l'inconnu qui venait d'entrer dans ma vie désirait connaître bien plus que mon nom ou mon identité, et tout autre chose que mon histoire. « Qui es-tu ?» Si je ne pouvais répondre, j'en prenais conscience, c'est que je ne l'avais jamais su en vérité. Et c'était un abîme qui s'ouvrait sous mes pieds. « Il se nomme Clétus. » dit Ostanès à ma place. La surprise me redressa. « Comment le sais-tu » parvins-je à articuler. « Tu ne m'as jamais demandé mon nom. Ignores-tu que tu as le sommeil loquace et la fièvre prolixe ? J'en sais plus long sur toi que tous ceux que tu crus tes amis. » « Clétus ?» proféra Petrus, comme s'il cherchait un sens caché dans ce mot. « Es-tu romain ?»«
Oui. »
« Qu'est-ce qui t'a fait descendre si bas ? La jalousie de Néron, je suppose ?» Ou l'amour d'un dieu qui ne voulait te perdre ? Dérouté, je ne savais que répondre. De quel dieu parlait-il ? Ostanès prit la parole. « Shimon Petrus, es-tu un homme de Dieu ? » « Par sa grâce, je l'espère. » « Je crois que tu l'es. J'estime l'être aussi. Sache que je n'ai pas d'aversion pour ton peuple. Certes, vous êtes un ramassis de fanatiques qui refusait d'honorer les dieux des autres nations, et même de reconnaître leur sens du divin. Vous les méprisez tant que le simple contact avec un étranger vous est insupportable, ce qui donne à penser que vous haïssez l'humanité, et n'attendez-vous pas le jour où votre race minuscule régnera sur le monde et l'univers tout entier ? Mais, pour vous avoir étudié de très près, je sais que vous êtes un peuple qui s'est donné le défi de devenir entièrement saint et de sanctifier chaque instant de la vie, et qu'un tel peuple pourrait bien former le réceptacle capable d'accueillir le Sauveur qui fut annoncé par Zarathoustra. Shimon haussa les sourcils. « Ton prophète a annoncé un sauveur » questionna-t-il lentement. Ostanès ferma les yeux et se mit à réciter. « Nous honorons la puissante splendeur royale qui s'attache à Koshyant, le vainqueur suprême, afin qu'il renouvelle le monde, le recréant exempt de vieillesse et de mort, exempt de corruption et de putréfaction, toujours vivant, toujours prospérant, gouverné selon le juste, afin que les morts ressuscitent et qu'adviennent à tout vivant l'immortalité. » Shimon semblait frappé de stupeur. Quant à moi, luttant contre la torpeur qui menaçait à nouveau de m'engloutir, je ne comprenais rien. « Qu'est-ce qui te trouble tant ? » demanda Ostanès. « Qui est ce Koshyant ? » questionna Shimon. « Koshyant n'est pas le nom d'une personne. Ce mot signifie simplement « sauveur ». Zarathoustra nous a annoncé le sauveur par excellence. celui par qui l'univers tout entier sera transfiguré. Mais il nous a enseigné que chacun de nous devait être un sauveur, car c'est à travers tout homme que Dieu peut réinvestir une création gâtée par l'esprit de mensonge. » Shimon inclina la tête comme pour saluer et dit « Je remercie le ciel, Ostanès, de t'avoir placé sur mon chemin. Tu es certainement issu d'une nation sainte, puisque le Sauveur, dont je sers le nom, lui fut annoncé. » Le regard de la Diabénin, qui semblait embrassé mais ne jamais fixé, se contracta d'un coup pour s'immobiliser sur Shimon avec une intensité qui m'aurait pétrifié.
« Et quel est ce nom que tu sers ?»«
Yeshua le Nazaréen. » »« Sache, Titus, que l'homme que j'étais avant d'être jeté en prison se serait détourné avec dédain de ce colloque abscon entre deux démons qui semblaient ne se comprendre que par le délire qu'ils partageaient. N'offrant ma foi qu'à ce qui tombait sous mes sens et n'adhérant qu'aux possessions de mon intelligence, je ne croyais ni au Dieu ni à rien. Mais une force inconnue me tenait captivé, moins des mots qui me dépassaient que de l'échange intime que je devinais entre ces deux êtres comme une reconnaissance qu'ils s'offraient l'un à l'autre en une profondeur éveillant en moi une obscure nostalgie.
« Yeshua, » prononça lentement Ostanès, « je crois avoir entendu parler de cet homme. Le premier de mes maîtres, celui au pied duquel je bus le lait de la tradition, celui qui forma mon âme à recevoir la connaissance des choses divines, m'avait conté que son propre maître, il y a plus de deux générations de cela, avait quitté les bords du Tigre avec plusieurs compagnons. Un long voyage les mena non loin de Jérusalem et de votre temple, dans une petite ville de Judée. Il avait vu se lever l'étoile nouvelle, et celle-ci les guida jusque dans une étable où reposait un nouveau-né.
« J'ai bien entendu dire, opina Shimon, de la bouche de Mariam, la mère de Yeshua, que des mages d'Orient vinrent adorer son fils à Bethléem, juste après sa naissance. »
« Des mages, oui. C'est le nom que les étrangers ont l'habitude de donner aux disciples de Zarathoustra. L'étude des astres avait convaincu ces hommes que l'enfant était le Koshian que le monde attendait. Il portait bien le nom que tu as prononcé. Le nom d'un sauveur, avait dit le maître de mon maître.
Yeshua signifie Dieu sauve, confirma Shimon.
D'après ce que j'ai entendu, dit Ostanès d'un ton soudain méprisant, il en portait le nom mais n'en eut point le destin. Ne fut-il pas mis à mort et de la plus infamante des façons?
« Tu dis vrai. »
Le maître de mon maître, un temps, fut torturé de questions. La mission de Yeshua avait-elle échoué? Ou bien n'était-il pas le sauveur annoncé? Il l'oublia, mais ces événements avaient troublé son âme.
Sa mission n'a pas échoué.
Ne fut-il pas exécuté?
Il est mort sur la croix.
C'est la mort d'un esclave.
Il est pourtant bien ton sauveur et le mien.
Ostanès prit un temps pour contempler son interlocuteur. Puis il eut un rire bizarre où l'amertume le disputait une sorte de férocité. « Je crains que tu ne sois un vieil égaré. Regarde autour de toi. Le monde est-il sauvé? Ce sont les hommes les plus éloignés de l'esprit d'unité qui règnent ici-bas. Ce sont eux qui nous ont précipités dans ces ténèbres pour y mourir. Car la mort n'est pas vaincue. Le sauveur n'est pas encore paru. »
Shimon ferma longuement les yeux, comme s'il écoutait en lui-même. Puis il parla. « Je suis porteur d'une très bonne nouvelle pour toi, ainsi que pour tout homme qui cherche. Mais elle est dure à entendre. Veux-tu que je te conte l'histoire de mon maître Yeshua ? » Une ombre dédaigneuse glissa dans les yeux de la Diabénien. Il haussa les épaules, comme on concède une lubie à un enfant, et ferma les yeux. Alors, Shimon commença son histoire.